Bonjour, je suis Sylvain Trinel, journaliste à BFM Tech. Ma passion, c'est les jeux vidéo, mais comme jouer seul, c'est un petit peu ennuyant. J'ai convié des personnalités médiatiques, politiques ou culturelles, et vous allez peut-être découvrir en eux des gamers inattendus. Bienvenue dans Player 2. Et mon invité cette semaine, c'est Hugo Bernard-Lissis. Il a 36 ans. J'ai bon pour l'instant. Il est député de la France Insoumise depuis 2016. Il a été aussi.
2017, enfin oui, la campagne.
Exactement, parce qu'il a aussi été au Parti Socialiste, puis au Parti de Gauche. Oh, ouais, et oui, ça remonte. J'ai fait la page Wikipédia de fond en comble. Il est aussi et surtout un joueur averti. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Je vais commencer par une question que je pose toujours en premier à nos invités. C'est quoi votre jeu préféré ?
Bah, c'est compliqué, je joue à beaucoup de jeux différents. En fait, je suis un peu touche à tout en général, y compris dans le jeu vidéo. On va dire que là en ce moment, si je devais donner un jeu préféré, je joue beaucoup à TFT.
League of Legends, TFT, les deux se suivent.
Ouais, exactement.
Comment est-ce que vous vous êtes mis à jouer à TFT ou à League of Legends? C'est quoi le premier jeu? C'est League of Legends ou c'était?
Non, le premier jeu, c'est le vrai premier jeu, un peu costaud, c'était Age of Empires. Le tout premier.
Ok.
Quand j'étais gamin, parce que j'avais 7 ans, je crois, ou 8 ans, quand c'est sorti. Et le StarCraft 1 aussi. Qui est de la même époque où le Alerte Rouge.
Command and Conquer.
Alors, c'est avant Command and Conquer.
Ah, mais oui, c'est vrai. Mais oui.
Non. Donc, plutôt des jeux de stratégie en temps réel, en fait, ouais. Y compris parce que. À l'époque, pour qu'il y ait des bons graphismes et que ça lag pas, etc., le jeu de stratégie, c'est quand même plus simple qu'un FPS.
C'est vrai.
Même s'il y avait déjà, assez vite, il y avait des Counter-Strike, le 1.6, mais c'était plutôt mes potes qui faisaient du jeu de tir à la première personne. Et je m'y suis mis parce que faut bien jouer avec ses potes aussi, quoi. Donc,
étiez plus cérébral, du coup, dans la stratégie.
Oui et non. Enfin. Disons que spontanément c'était plus ça ce que je voulais, mais c'est en vrai ça défoule pas mal aussi le jeu à la première personne et donc assez vite. Et puis je me souviens de LAN organisé à la maison chez les copains à tour de rôle, parce qu'on avait déjà avec chacun nos petits routeurs, c'était une galère à l'époque,
c'est vrai que c'était une galère, mais oui, on oublie aujourd'hui, mais
c'était pas bon, fallait le paramétrer, le routeur. C'était pas genre plug and play et c'est parti les gars, quoi, on y va.
C'est vrai.
Ouais. Donc c'était, il y avait aussi un aspect technique qui était un peu rigolo, enfin je veux dire enthousiasmant. Et donc c'est là où on a fait les premières grands jeux de tir à la première personne. Alors à la fois du Counter-Strike, mais aussi vous savez le jeu Battlefield qui est sorti pas longtemps après, premier avec des énormes cartes où on pouvait jouer à 16 contre 16 ou 8 contre 8, quoi.
Mais c'était jamais vu à l'époque.
Non, ouais, c'était vraiment
sur une carte, ouais.
Et puis surtout de faire des, à la fois d'être alors pour les versions qui ont un peu évolué, mais de prendre soit dans les airs, soit sur terre, soit sur mer. Enfin, bon, faut être un gros geek pour
voir. mais non,
la plus-value de voilà, tout ça.
Battlefield est une licence qui est ultra connue auprès du grand public, comme Call of Duty d'ailleurs, et c'est vrai que Call of Duty a été la suite de Battlefield d'une certaine manière dans le temps de développement. Donc clairement, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui comprennent ce que vous dites, rassurez-vous.
Mais j'ai fait décrocher par Little Big Adventure 2,
okay.
Petit jeu de plateforme connu des vrais. Donc vraiment, j'ai vraiment touché à tout, quoi.
Est-ce qu'on arrive encore à jouer aux jeux vidéo en tant que député? Parce que là, je vois le TFT.
Vous voulez la vérité ou
ça,
pas?
Ça prend du temps.
Ouais.
Est-ce que vous faites jouer votre assistant parlementaire à votre place pour qu'on s'en place au classement?
Non, parce que non. Faut pas abuser. Entre minuit et 2h du matin, quoi. Voilà. Non, c'est un problème, par ailleurs.
c'est un
problème de concilier un certain nombre de choses, la vie privée et familiale, plus la vie politique et la vie vidéoludique, et quand même, bon.
Il faut faire des choix.
Ah oui, mais du coup, je suis pas un joueur régulier. Quand je commence un jeu, il n'est pas du tout sûr que je le termine. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, quoi.
Il faut faire avec. Alors, vous avez, je le disais, vous avez 36 ans, vous faites partie d'une génération qui a connu le jeu vidéo alors qu'il n'était pas encore un médium trop grand public. Vous êtes un des rares gamers de l'Assemblée nationale.
Pas si rare que ça, en vrai.
Maintenant, c'est vrai que depuis 2022...
La vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gamers qui disent l'être.
Qui l'admettent, vous pensez?
Ah j'en suis sûr.
D'accord. Ah oui, c'est marrant.
Pas vous balancer des noms comme ça, ah, ça n'a aucun sens.
Mais j'ai besoin d'inviter, ça tombe bien.
Ah, d'accord. Mais en vrai, bon, voilà.
Non, mais c'est vrai qu'effectivement, dans les rangs de la France insoumise, il y en a quelques-uns, effectivement, oui, notoirement connus, dont vous, d'ailleurs. Est-ce que c'est malgré tout, malgré le fait qu'il y a des gens qui jouent sans le dire, c'est compliqué aujourd'hui de parler de jeux vidéo à l'Assemblée nationale?
À l'Assemblée, pas spécialement, mais c'est vrai que dans le débat public, les joueurs de jeux vidéo sont caricaturés sur quand les politiques s'en emparent. Hein, je veux dire, sont caricaturés ou soit ils sont zélés en mode ah c'est génial, un écosystème merveilleux, sans traiter le sujet politiquement pour ce qu'il est quoi. Je veux dire une industrie, la première industrie culturelle du pays, comment on l'accompagne, comment on l'oriente, comment on fait en sorte que ça aille pas dans le décor, parce qu'on est dans un système libéral qui produit tout un tas d'externalités négatives comme on pourrait le dire. Donc ça va encore, mais c'est vrai que dans le débat public, le peu de fois où on parle jeux vidéo, c'est pour dire ah regardez quand il y a une fusillade d'un jeune qui a fait n'importe quoi, c'est le petit truc en plus, et en plus il joue aux jeux vidéo.
Voilà. C'est vrai que c'est souvent...
Et avant qu'il y ait les jeux vidéo, c'était ceux qui faisaient du jeu de rôle, oui. Tu sais
Et on rappelle qu'aucune étude ne montre de corrélation entre le jeu vidéo et la violence.
Bah non, sinon j'aurais déjà tué tout le monde.
J'allais vous dire la même chose.
Mes adversaires politiques me suspectent de vouloir le faire. mais non, c'est pas le cas. Puisqu'en plus, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai été maître du jeu de rôle papier, old school. Voilà.
On en découvre tous les jours dans ce podcast. Vous êtes député dans une circonscription du nord de la France.
Oui.
On peut notamment compter la présence d'Ankama dans le nord de la France, à l'origine du jeu vidéo. Dofus, est-ce que vous les avez déjà rencontrés?
Pas eux, mais la section des travailleurs du syndicat des travailleurs des jeux vidéo d'Ankama, oui, eux, je les ai rencontrés.
Oui, parce que la situation chez Ankama n'est pas toute rose, malheureusement, même si c'est pas, on en parlera juste après, mais c'est pas un des studios les plus malmenés ces dernières années sur le secteur du jeu vidéo. Mais comment ça s'est passé, justement? Pourquoi vous les avez rencontrés à la base?
Tout simplement en manifestation, en manifestation sur les retraites, sur des sujets généraux. Ils avaient leur petite délégation de syndicalistes qui venaient revendiquer, et puis certains je les ai vus aussi sur Paris, puisque en fait déjà à plusieurs reprises on s'est intéressé au secteur du jeu vidéo, pas juste là pour 2026 mais déjà en 2022 et déjà depuis 2017 en réalité. Et donc moi j'avais pris soin à la fois pour préparer notre programme politique, d'organiser des auditions avec le syndicat des travailleurs de jeux vidéo.
D'accord.
Et donc il y avait des camarades du Nord qui étaient là.
Ils étaient contents de faire face à un député qui justement connaissait quand même le domaine du jeu vidéo.
Oui, c'est plus appréciable pour eux, évidemment. Et puis surtout pour eux de voir... Parce qu'on n'a pas parlé... On n'a pas parlé de nos stats de classement sur tel jeu ou je sais pas quoi, ou les jeux qu'on aime ou qu'on préfère, c'est pas le sujet en fait. On a vraiment parlé des conditions de travail dans le secteur, on a fait de la politique en fait, et eux du syndicalisme. Et eux, ils étaient contents d'avoir un député qui fait de la politique. Pas juste un député qui joue, bien sûr, ça aide à mieux comprendre le sujet, mais le joueur, il ne perçoit que le produit fini. L'envers du décor, il est colossal.
Souvent, voilà,
certes, je ne suis pas allé voir Ankama, j'ai vu d'autres studios de jeux dans mes pérégrinations en devant de députation, mais j'ai fait aussi pas mal d'écoles de jeux vidéo. Et école privée, j'ai jamais fait l'école publique d'ailleurs, mais Jean-Luc Mélenchon l'avait fait pour la campagne de 2022, parce qu'on a Rubika, nous, dans le Nord à Valenciennes, financé par la CCI en l'occurrence, et j'étais venu à la fois faire une petite conférence, tenir des propos et puis changer avec la direction, avec les représentants des élèves, etc. Et parce que ça commence dès là, c'est-à-dire ce qui se passe dans le secteur du jeu vidéo, les inégalités à la fois entre hommes et femmes, le fait qu'on vous habitue déjà à des horaires de travail un peu bizarres,
oui,
parce que métier passion, ça commence dès l'école en fait. Eux me disaient, on ferme la salle où ils peuvent travailler comme ils veulent sur des PC à minuit, parce que avant il n'y avait pas d'horaire de fin de la salle, et du coup ils continuaient à bosser, à travailler jusqu'à 3, 4 heures, 5 heures du matin, peut-être retourner en cours à 9 heures. C'est pas possible en fait, c'est pas sain, et donc ils essayent...
Et surtout ça habitue en fait à un traitement du salarié qui est
qui va pas, ouais. Donc ils essayaient de travailler là-dessus, je voyais que c'était pas évident, parce qu'à la fin le secteur il est quand même dur.
Mais justement, ça m'amène à mon autre question, parce que quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit que vous souhaitiez parler de la situation du jeu vidéo à l'heure actuelle. Alors, c'est bien, parce qu'entre le moment où on a commencé, il y a eu plein de choses qui se sont passées, plein de malheureuses choses. Donc, il y a le studio français Spiders qui a fermé il y a très peu de temps. Dontnod et Quantic Dream ne vont pas bien du tout. On sait que Quantic Dream, d'ailleurs, au moment où on enregistre cette émission, est en grève, ainsi qu'une partie du secteur. Ubisoft, voilà, c'est un peu la bérésina en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir dans l'industrie du jeu vidéo en France?
Oui, surtout si on gagne la présidentielle de 2027. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai alerté à plusieurs reprises le secteur du jeu vidéo, à savoir les représentants des éditeurs, le CEL, puisqu'il y a déjà eu plusieurs tables rondes à l'Assemblée, etc., puisqu'il y a un groupe d'études dédié sur le sujet, présidé par un macroniste, Denis Masséglia.
Tout à fait, qui est aussi donc, d'ailleurs dans Payeur Tout.
Je n'en doute pas. Et parce qu'en fait, je leur ai dit, parce que le gros truc du secteur du jeu vidéo en France, qui fait qu'il a réussi un peu à se structurer, en tout cas, l'hypothèse, c'est qu'il y a le crédit d'impôt jeu vidéo. Et j'ai dit, c'est bien votre crédit d'impôt jeu vidéo. Moi, France Insoumise, je suis pas trop crédit d'impôt, c'est pas trop mon truc, les allègements de d'impôts pour les entreprises. Mais admettons. Et donc, on pour concurrencer aussi le Canada, qui avait lancé son crédit d'impôt et que tout n'aille pas au Canada, la France s'est dit, bah tiens, nous aussi, on va faire un crédit d'impôt. Mais en fait, ça a une limite à l'équation. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez toujours avoir un pays qui va faire mieux que vous en exonération d'impôt. Donc, qu'est-ce qui fait? Pourquoi venir travailler dans le jeu vidéo? Pourquoi une entreprise de jeu vidéo s'installera en France plutôt qu'ailleurs? Sachant qu'ailleurs ça peut être moins cher et qu'en plus le métier du jeu vidéo il est, comment je vais dire ça, facilement délocalisable.
Oui, c'est ça. Donc, et c'est, on le sait, plus difficile de licencier des personnes en France que comme on le voit aux États-Unis.
Et puis vous avez des tas de gens qui, dans le secteur, maintenant bossent en freelance, en auto-entrepreneur pour différents studios, et donc ça peut être de n'importe où dans le monde. Voilà, donc vous pouvez faire en télétravail. Enfin, je veux dire, c'est quand même un secteur qui se prête bien au libéralisme et effréné et pas à la protection sociale, quoi. Donc la question, c'est comment nous on fait pour créer une protection sociale. Et je leur avais dit, on a besoin d'avoir de financement public, notamment pour les studios indépendants et qui produisent des choses dans laquelle la France, le pays entier, peut y voir un intérêt général, puisqu'on va pas financer juste le secteur privé pour financer le secteur privé pour le fun, hein, c'est pas le but non plus de l'État, mais en même temps de dire, si vous voulez avoir de la création de contenu en France, il faut financer aussi par en bas le socle et pas juste le crédit d'impôt pour les ceux qui font des triple A, parce que en fait ça encore une fois vous allez les avoir à un moment donné, puis du jour au lendemain, si le secteur est plus attractif, si l'intelligence artificielle si elle remplace plusieurs métiers, ils n'en auront rien à faire, ils vont licencier tout le monde et se barrer. Et on met la clé sous la porte. C'est ce qui est en train d'arriver, malheureusement. Et je me dis, c'est vraiment rageant de se dire qu'on aurait pu faire quelque chose de bien pour le financement du secteur du jeu vidéo, qui aujourd'hui est microscopique, en fait, le financement public. Il est au Centre National du Cinéma, qui gère le secteur du jeu vidéo, qui administre le crédit d'impôt, d'ailleurs. Mais aussi, il y a quelques financements pour des petits projets, mais c'est des sommes qui sont ridicules à l'échelle du secteur. On parle en milliards d'euros le chiffre d'affaires du secteur, et là on est à quelques millions, même pas 100, pour le financement de développement indépendant, quoi.
En demandant, Emmanuel Macron, il a mis en place plusieurs mesures, voilà, après c'est crédit d'impôt, etc. Notamment, il y a aussi eu des mesures sur l'e-sport. Moi, je suis allé au meeting de Saint-Denis, de la France Insoumise, parce que ça m'intéressait de savoir un peu comment Jean-Luc Mélenchon s'adressait à la jeunesse qui était particulièrement présente ce jour-là, même s'il faisait très chaud. Mais donc, il a parlé d'intelligence artificielle, il n'a pas parlé de jeux vidéo. C'est quoi, au juste, les idées pour le jeu vidéo dans le programme de Jean-Luc Mélenchon pour 2027?
Un jour à la fois, il y aura une séquence.
Il y aura une séquence jeux vidéo.
Il y en a eu à chaque présidentielle, si vous avez bien remarqué. Jean-Luc Mélenchon y attache une importance particulière parce que, tout responsable politique devrait y attacher une importance particulière. Quand vous voyez les statistiques de ce que représente le jeu vidéo dans notre pays, c'est même lunaire qu'on n'en parle pas plus dans le débat politique, en vérité. Mmh. Première industrie culturelle, ce qui est le plus consommé, ce qui aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des gens de ce pays qui jouent, hommes et femmes. Alors jouer, ça peut être soit sur un triple A, un jeu où vous avez passé des heures, un Civilization 6, mais ça peut être un 2048 sur votre smartphone, vous êtes dans le métro,
oui,
de jouer.
Un joueur est un joueur.
Ah bah, et voilà, il y a des tas de manières de jouer, mais c'est aujourd'hui devenu quelque chose de dominant dans la société, mais clairement. Donc, vous pouvez pas faire l'impasse là-dessus, à la fois pour des raisons économiques, des raisons culturelles, des raisons de ce que ça représente. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ont des références entre eux en parlant, qui sont en rapport direct avec le monde du jeu vidéo. Bon, bah, c'est même dans la culture des jeunes, dans les mots qu'ils vont pouvoir utiliser, ça transforme aussi la langue, la manière de s'exprimer. Enfin, c'est un fait culturel qui tend à être dominant. Donc, franchement, quand on fait de la politique, on peut pas passer à côté. D'ailleurs, la droite la plus réactionnaire ne s'y trompe pas. Ils ont encore lancé une polémique récemment sur la question de l'e-sport dans le cadre de l'éducation nationale. Hein, vous avez vu cette polémique avec la stratégie e-sport 2026-2030. Ouais. Et eux le reprennent comme un poncif sur la violence, sur machin, sur leurs propos anti-jeunes. Donc nous, on n'est pas là-dessus, évidemment, loin s'en faut. Donc il y aura un Jean-Luc Mélenchon qui se prononcera sur le secteur du jeu vidéo. En tout cas, il y aura une séquence sur le jeu vidéo. C'est pas ça qui... En plus, c'est pas les événements qui manquent.
C'est vrai, il y a la Coupe du Monde cet été d'e-sport, ne serait-ce que pour parler de ça, mais voilà, il y a aussi d'autres grosses sorties, etc. Il y a quand même une mesure que j'ai retrouvée dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est la création d'un centre national du jeu vidéo. Ça serait quoi exactement ses objectifs ?
Bah alors déjà, je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le financement du jeu vidéo indépendant, le financement public du jeu vidéo est géré
par... en fait chapeauter ça en fait.
Aujourd'hui c'est fait par le Centre National du Cinéma. Ouais. Ok. Or le Centre National du Cinéma, quand vous regardez ses recettes, comment il fonctionne, hein, pour fonctionner, c'est l'essentiel du financement, c'est le billet de cinéma. Ok. Et bon, il y a d'autres petits financements autres, mais il y a 0 € qui proviennent du secteur du jeu vidéo. Donc vous avez 0 € qui provient du secteur du jeu vidéo. Et à la fin, vous avez quand même quelques millions pour financer des projets indépendants, d'intérêt général, etc. Donc déjà, c'est pas juste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc on va créer un truc spécifique au jeu vidéo, Centre National du jeu vidéo, qui sera chargé aussi de collecter de l'argent du secteur. Alors ça peut être, moi je pense que le plus efficace, c'est de collecter sur la vente de jeux vidéo. Il y avait à un moment donné...
Et pas de taxer les entreprises de jeux vidéo, par exemple, vous voyez, un peu comme la taxe streaming sur Spotify, je veux dire. Ça, est-ce que, du coup, ça serait...
Le truc, c'est la domiciliation de l'entreprise de jeux vidéo... Vous voyez ce que je veux dire?
C'est vrai, effectivement.
Donc en fait, à la fin, quand vous retournez le truc, parce qu'il se posait la question, on pourrait taxer les manettes qui sont vendues, mais en fait, si vous êtes joueur souris clavier, vous n'avez pas taxé les souris, Bon, il faut être joueur pour comprendre qu'à un moment donné, le seul produit, on est sûr que tout le monde est obligé de passer par cette case, c'est le jeu lui-même. Voilà. Et donc, de se dire qu'on prend un petit pourcent, il n'y a pas besoin de grand-chose en plus, hein, encore une fois, c'est en milliards, hein, le secteur. Si vous voulez un budget de 100 millions, 0, quelque chose de taxes, c'est suffisant. Et surtout, c'est un retour sur investissement pour le secteur. Enfin, je veux dire, faut pas le prendre comme une ponction.
C'est comme le cinéma, effectivement.
C'est réinjecté dans le secteur, intégralement. Donc c'est vraiment pour organiser le secteur. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, effectivement, ce centre national du jeu vidéo, il pourrait superviser l'intégralité de ce que ça recouvre, y compris l'e-sport. Et sur cette partie-là d'e-sport, nous, on propose que ce soit rattaché au ministère des Sports. Enfin, que ce soit lui le ministère référent, et pas le ministère de l'économie. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Ce qui est quand même notre vision des choses.
Le jeu vidéo, lui, resterait auprès du ministère de la Culture et du Numérique.
Ah oui, bien sûr. Mais il faut que ce soit un portage culture numérique pour l'écosystème, l'industrie du jeu vidéo en tant que tel. Spécifiquement pour l'e-sport, il faut que le ministère des Sports mette son nez dessus. Mais c'est d'abord et avant tout, effectivement, un produit culturel de notre point de vue. En tout cas, on doit le considérer comme ça en tant que puissance publique. Parce que si on le considère uniquement comme un produit économique, bah, faisons comme on fait aujourd'hui, un crédit d'impôt. Une entreprise ouvre, une entreprise ferme, c'est la vie.
C'est d'ailleurs ce que dit le STJV aujourd'hui. Les crédits d'impôt, en fait, on leur limite selon les syndicats. C'est que il n'y a pas de conditionnement à ces aides, donc effectivement eux ils demandent
des impôts en général,
des règles plus strictes à l'égard des entreprises. Qu'est-ce que vous dites aux développeurs aujourd'hui, ou même aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail du jeu vidéo, qui vont, alors voilà, je pense pas me tromper là-dessus, mais se faire maltraiter par un secteur qui est en crise complète, est-ce que vous leur dites d'espérer, de continuer, et donc en leur disant voter Jean-Luc Mélenchon d'une certaine manière?
Attention, hein, je dis pas
mieux.
Alors oui, évidemment, c'est assez logique, mais surtout leur dire que finalement la création du STJV est récente à l'échelle de l'histoire, hein.
2017,
c'est tout frais, quoi, hein. Donc en même temps que nous on a été élus, en fait, hein, donc c'est pour ça qu'on s'est rencontrés assez vite. Et depuis, la principale bataille qu'ils ont menée, et ils ont raison de la mener, que moi j'ai relayé, et que d'autres députés ont relayé, hein, à la fois auprès des éditeurs, à la fois au sein de l'Assemblée nationale, dans le débat parlementaire, c'est la question d'avoir une vraie convention collective, en tout cas de savoir quelle convention collective s'applique. Parce que chacun faisait comme il voulait sur les conventions collectives, sur les droits en gros, hein, des travailleurs du secteur du jeu vidéo. Mmh. Si vous étiez en train d'être dev, bah, vous étiez plutôt dans la convention collective sur les ingénieurs, en fait. Hein, et si vous étiez acteur parce que vous mettez une combinaison haptique pour faire des jeux vidéo
de la motion capture
que font par exemple Quantique, bah là ils prenaient plutôt le statut de l'intermittence du spectacle. Bon, du coup c'est pas les mêmes conditions de rémunération, etc. Donc clarifier ces choses là parce que chacun faisait un peu comme il voulait, hein, en l'occurrence, c'est déjà un premier point, et ça a avancé, puisque le secteur a dit ok, on va travailler, on va plutôt prendre la convention collective, je crois c'est Syntec de mémoire, qui s'applique aux ingénieurs, et à partir de là, aux ingénieurs informatiques, dans le monde de l'informatique en général, pour développer des droits. Mais après, il faut qu'ils soient appliqués, ces droits, donc il faut une inspection du travail qui fasse son travail, et puis effectivement, conditionner le financement à dire, bah, vous devez embaucher des gens en France. Voilà, c'est déjà un premier, ou en tout cas les payer selon les règles de la France. Mmh. Hein, ça me semble être quelque chose d'assez important et déterminant. On pourrait même, bon, pas effrayer trop le secteur, mais la question de la marge. Hein, parce que quand votre crédit d'impôt, en fait, c'est 100% d'augmentation de votre marge, puisque vous n'en aviez, a priori, dans certains cas, pas besoin pour produire le jeu vidéo en lui-même. Hmm. Voilà, quand tout votre crédit d'impôt part aux actionnaires, vous pouvez poser des questions. Donc il y a des enjeux là-dessus, et puis il y a des enjeux en réalité de féminisation, hein, du secteur très très fort. Parce qu'à la fin, on peut pas expliquer le côté masculin du contenu du jeu vidéo, des jeux vidéo en général, et des stéréotypes qui sont véhiculés, si on comprend pas qu'il y a très peu de femmes dans le secteur.
Oui, dans le dernier rapport de Women's in Game, donc association féministe justement qui lutte pour plus d'égalité dans le secteur du jeu vidéo, ça montrait qu'il y avait une régression d'ailleurs, alors que depuis quelques années, il y avait au contraire une augmentation du nombre de femmes dans les postes clés. Bon, une dernière question avant de passer au quiz, une petite question un peu plus triviale, mais à l'époque où David Guiraud était à l'Assemblée nationale, lui aussi jouait à League of Legends, je sais pas si en tant que maire, aujourd'hui il y joue encore, vous jouiez ensemble de temps en temps, et surtout, qui a le meilleur win rate?
Ah bah non mais lui clairement, enfin déjà à l'époque et encore aujourd'hui, puisqu'en plus aujourd'hui je joue quasi, enfin je joue un coup de temps, mais c'est vraiment assez rare que je fasse une partie de LOL, pour plein de raisons, voilà, c'est plus simple TFT, je peux jouer sur le téléphone.
C'est plus court aussi.
C'est...
Ça peut être plus court.
Bon, joker. Parce que franchement, bon, bref, vous pouvez faire une partie en 20 minutes de LOL parce que soit vous avez roulé sur les autres, oui, vous vous êtes fait rouler dessus. TFT, ça peut durer 30 minutes si vous êtes dans le top 1 ou top 2. Quoi, hein, donc, bon, bref, je mets ça de côté. En fait, David est devenu maire, il faudra lui poser la question. Après, moi, j'ai aussi beaucoup joué avec d'autres collègues. Et plus récemment, le dernier collègue avec qui j'ai joué, il s'appelle Louis Boyard.
C'est pas mal. Et alors, qui a gagné?
Là, c'était moi, la dernière. C'était moi.
Une belle victoire.
Oui, bah, j'ai pas fanfaronné non plus. Hein.
Mais il faut écouter. Il y a pas de petite victoire.
Mais vous savez, en plus, je dis une bêtise, la dernière personne avec qui j'ai joué, alors, sur un support numérique...
Me dites pas que c'est Jean-Luc Mélenchon, sinon je vous connais pas.
Non, c'est pas Jean-Luc. Non, c'est ma présidente de groupe, Mathilde Panot.
D'accord.
Voilà. On se fait une petite partie d'échecs sur chess.
Et qui a gagné?
Elle.
En même temps, bon...
Elle est présidente
pour rien.
Ouais, voilà.
Bon, on va conclure cet épisode avec notre quiz. Vous nous avez parlé de vos jeux vidéo favoris. J'ai donc préparé un petit quiz. Très rapide, attention dans les réponses, pour voir si vous les connaissez vraiment. Donc, première question. Première question.
Qu'est-ce que vous allez me demander?
Combien y a-t-il de héros dans League of Legends?
En plus... J'ai eu la question à la maison il y a pas longtemps. J'ai dit oh, plein, au moins 150. De toute façon, ils en sortent quasiment tous les deux mois.
C'est ça.
Donc même plus que 150, j'ai même pas refait le compte récemment, mais c'est devenu colossal, quoi.
Oui. Alors il y en a 192, ouais, précisément. Ça. Voilà. Donc non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de héros dans League of Legends. C'est peut-être ça un peu qui fait peur aux gens, parce qu'il faut en maîtriser quand même pas mal pour trouver le sien avant.
Clairement, il y a un moment donné, j'ai pas joué pendant 3 ans ou 4 ans. J'ai installé le truc, j'ai fait qui sont ces gens, quels sont ces items, les objets, parce qu'ils avaient tout changé à un moment donné. Il y a eu un gros changement dans la manière de gérer les objets dans League of Legends, et ça change beaucoup. Donc oui, il y a un coup d'entrée. Je comprends que ça vraiment. Hein, surtout qu'à League of Legends, si vous connaissez pas les gens, enfin, les personnages contre qui vous jouez, ça vous handicape énormément, quoi. Parce que vous savez pas d'où va venir l'attaque, s'il attaque à distance, à courte portée, quels sont les bon. Eh non, c'est vrai. C'est chaud, là, en vrai.
C'est vrai, non, mais oui, c'est difficile à maîtriser.
Certains disent que c'est un jeu d'action, d'autres disent que c'est plus proche du jeu de stratégie en temps réel.
Complètement.
Et c'est un mix entre les deux, en vrai. Hein, parce que si vous n'avez pas d'habileté, n'y jouez pas. Alors qu'un jeu de stratégie en temps réel. Bon, compétitif, il faut avoir de l'habileté aussi, c'est clair.
Alors, mais justement, parlons des jeux de stratégie en temps réel. Combien il y a d'épisodes de Command & Conquer?
Bah, moi, j'ai beaucoup joué à Soleil de Tiberium, qui était un des premiers Command & Conquer, après Command & Conquer Generals, où il y a eu des extensions, etc. Ouais.
Sans des extensions, attention, hein, quand même. Je sais
pas, ah oui, cruel, d'accord. Ouais. Bah, je sais pas. Après, il y a eu Alerte Rouge 3 qui est ressorti, qui est sorti un peu sur un remake du 2 remasterisé, quoi.
Il y a eu le 4, il y a eu le 5.
Ouais, bah j'ai.
Spin-off.
Ouais, mais du coup, est-ce que les Alertes Rouges, on les considère comme des Command & Conquer aujourd'hui?
Oui.
Parce qu'au départ, c'était deux choses.
Ouais, mais voilà, depuis, effectivement, les 4, ça se rassemblait sous une seule bannière.
Je vais dire comme ça, mais au moins une douzaine.
Ça fait 11, précisément. Donc vous aviez raison, je suis désolé.
Alors que
je
n'ai pas joué à tous et ni rien, mais celui de Tiberium était quand même vraiment bien.
Merci beaucoup en tout cas Hugo Bernardicis d'être venu dans Player 2. Le podcast, il est retrouvé sur toutes les plateformes, mais aussi sur bfmtv.com et sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire votre jeu préféré, tant qu'à faire, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut.